pour tous les amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. La collection Jazz et Blues a consacré un numéro « Paroles et musique » à Herbie Hancock, ce disciple de Miles Davis. Il est l'une des figures les plus marquantes du jazz rock et du funk. Face à la déferlante rock et malgré l'intransigeance de certains de ses pairs, Herbie Hancock a réussi à marier les deux courants majeurs de la musique populaire américaine. Avec lui, les instruments électroniques ont fait une entrée remarquée dans l'univers d'un jazz aux frontières du rock et du funk. La jeune génération de jazzmen, qui était devenue professionnelle à la fin des années 50, ressentit très vite le besoin de donner une nouvelle impulsion au jazz. Ces musiciens avaient pris conscience que le bop avait plus ou moins sombré, et que le hard bop avait vécu son âge d'or, et que le free jazz, incarné par un Ornette Coleman ou un Archie Shepp, était destiné à rester un courant marginal. Il s'était rendu compte également que les artistes de rock et de rhythm and blues, en utilisant des instruments électroniques, avaient considérablement élargi le champ de leurs investigations musicales et qu'ils en avaient retiré une popularité grandissante auprès des jeunes. Alors que Jimmy Smith n'avait accepté de jouer de l'orgue à monde qu'en 1956, utilisé pourtant dès 1935, les musiciens de jazz, dont beaucoup avaient par ailleurs fréquenté les conservatoires, ne se montrèrent pas hostiles à l'emploi du piano électrique. le Fender Rhodes surtout, et du synthétiseur. Bien souvent, ils parvinrent même à renouveler les capacités expressives de la musique afro-américaine. Ce fut le cas de Miles Davis, qui en 1969 avait réussi la synthèse entre jazz et rock, avant de jouer devant les foules fleuries de l'île de Wight. Ce fut le cas aussi de tous les enfants de Davis, dont fait bien évidemment partie Herbie Hancock. Comme l'a confié le pianiste, après s'être converti avec succès au funk, l'électronique se différencie du jazz par sa légèreté et sa joie. Les gens demandent des disques qui n'exigent qu'un faible niveau d'attention. J'essaie de développer ma musique dans un sens plus fonctionnel qu'auparavant, de façon qu'elle n'empêche pas les gens qui l'écoutent de faire autre chose. En un mot, Davis puis Hancock donnèrent à la musique de jazz une coloration plus moderne et la firent entrer dans les hit-parades. Particulièrement à l'honneur, Bird, Hancock et Adams revisitent littéralement avec bonheur le répertoire de Duke Ellington et de son arrangeur Billy Strayhorn. Daydreams, il fallait le jouer très très doux, se souvient Johnny Hodge. En l'écoutant, le public était censé fermer les yeux et rêver quelque peu ce que nous allons faire naturellement. Pepper Adams a parfaitement suivi les conseils du saxophoniste d'Ellington et sa sonorité rauque restitue toute la nostalgie de l'œuvre. Hancock, quant à lui, laisse glisser délicatement sa main droite sur les touches du clavier tandis que la gauche plaque quelques accords veloutés. Sur un accompagnement laid back, il improvise ensuite sans jamais s'éloigner du thème avant le baryton d'Adams. Il s'agit là d'une des adaptations les plus réussies du répertoire ellingtonien. Daydreams. Thank you. Chicago, le 12 avril 1940, Jeffrey Hancock prend ses premières leçons de piano classique à l'âge de 7 ans, tout en étant viscéralement attiré par la musique afro-américaine qu'il entend à la radio. Enfant prodige, il l'est assurément. En 1951, il devient le soliste du Chicago Symphony Orchestra et se distingue dans le concerto en ré majeur de Mozart et le concerto brandebourgeois numéro 2 de Jean-Sébastien Bach. Mais le jazz et le rhythm and blues à cette époque font déjà partie de sa vie. Il se plaît à transcrire les solos d'Oscar Peterson et de George Shearing pour apprendre l'harmonie du jazz et il écoute les high-lows dont les harmonies vocales sonnent avantageusement à ses oreilles. Tandis qu'il étudie à la Grinnell University de Des Moines dans l'Iowa, avec la farouche ambition de devenir ingénieur, il commence à se produire dans les clubs. Il a même l'occasion de jouer avec le monstre sacré du sax ténor Coleman Hawkins, puis avec Lee Morgan, Hank Mobley et Donald Byrd. C'est le premier tube. Byrd lui met le pied à l'étrier en l'engageant dans son quartet et en lui permettant de faire ses premières armes dans un studio. Mais Herbie Hancock n'en décide pas moins de quitter le trompettiste pour voler enfin de ses propres ailes. Après diverses sessions pour le label Blue Note en tant qu'accompagnateur, le pianiste enregistre en 1962 son premier album comme leader. Une fois encore, Donald Byrd s'est révélé un précieux conseiller. N'oublie pas qu'Alfred Lion, le fondateur de Blue Note, est très réservé en ce qui concerne les jeunes. Dis-lui que tu es appelé sous les drapeaux et que tu veux enregistrer un disque avant de partir. Dis-lui aussi que tous tes titres sont déposés, même si ce n'est pas vrai, afin de conserver tes droits. En réalité, Lion n'aura pas à regretter d'avoir fait confiance à Hancock. Taking Off sera un succès et sera enregistré par plus de 200 musiciens. Comme le dira le pianiste lui-même, les royalties que m'a apporté Watermelon Man m'ont permis de payer les factures pendant 5 ou même 6 ans. Reconnu comme l'un des jeunes talents du funk, Herbie Hancock enregistre alors abondamment pour Blue Note. Parallèlement, il travaille avec Eric Dolphy, grâce à qui il se lie d'amitié avec Tony Williams, un jeune batteur, lui aussi appelé à un avenir brillant. En 1963, tous deux entrent dans l'orchestre que vient de fonder Miles Davis avec le sax George Coleman et le bassiste Ron Carter. Cette expérience se révélera déterminante pour la suite de la carrière de Hancock. Grâce à Davis, qui accorde une louable liberté à ses musiciens, mais si, il progresse à une rapidité vertigineuse. Ainsi, et comme en témoignent les albums enregistrés avec Wayne Shorter, qui a remplacé Coleman, Hancock est devenu l'un des nouveaux maîtres du piano jazz. Après s'être affranchi de ses différentes influences que sont Bill Evans et Wynton Kelly, D'Iris, un titre de l'album ESP, Joachim Herzberendt, dans son grand livre du jazz, écrira qu'il évoque comme un grand souffle d'orage dans une cathédrale dévastée. Puis, tandis qu'il commence à s'exprimer sur le Fender Rhodes, Williams l'initie au jazz d'avant-garde et aux rythmes orientaux. Après avoir participé à certaines séances de Miles in the Sky en 1968, Herbie Hancock cède la place à Chick Corea dans le combo de Davis. C'est pour lui l'occasion de poursuivre avec plus d'intensité encore ses recherches entamées depuis le début de la décennie, parallèlement à son travail avec le trompettiste. Speak Like a Child, Swan Dishie ou Sextant, paru tout au début des années 70, apparaissent en effet comme la suite nécessaire des somptueux My Point of View et Maiden Voyage. Pourtant, ces œuvres lumineuses du jazz rock ne connaîtront qu'un succès fort modeste. Heimhan Hold Cohand. Entre-temps, Herbie Hancock s'établit en Californie. Il change de style radicalement, en même temps qu'il se convertit au bouddhisme. « J'ai renoncé au désir de devenir une légende et d'écrire le grand chef-d'œuvre américain. Je me sens satisfait de parvenir simplement à créer une musique qui rend les gens heureux. » C'est dans cet état d'esprit et manifestement intéressé par la soul de James Brown et le funk psychédélique de Sly Stone que le pianiste fonde les Headhunters, qui enregistrent l'album du même nom en 1973, où les instruments électroniques tiennent une place prépondérante. Mais le musicien, dont le prestige ne cesse de croître, ne s'éloigne pas pour autant du jazz. En 1976, pour le festival de Newport, il organise même un orchestre constitué d'anciens sidemen de Davis, baptisé VSOP, qui marque son retour au jazz acoustique. 2 ans plus tard viendront les séances en duo avec Chick Corea. Elles confirmeront la passion que le virtuose éprouve pour la pureté du jazz. Sur une partie de piano très élaborée, Donald Byrd confère à It's a Beautiful Evening toute son atmosphère intimiste. Très incisif, Hancock, tant par la délicatesse de ses interventions que par son sens de la phrase juste, nous rappelle qu'il a été un concertiste classique, de talent. Il faut également souligner la précieuse saveur créée en arrière-plan par le vibraphone de Teddy Charles, ancien partenaire dans les années 50 de Benny Goodman et de Buddy DeFranco notamment. Directeur artistique de Warwick, avant de devenir celui du prestigieux label de soul Motown, il a très certainement signé l'arrangement de cette composition de Wayne et Rush. « À partir du début des années 80, Herbie Hancock se délectera plus encore à brouiller les pistes, alternant le jazz et le funk. Il formera un quartet avec Ron Carter, Tony Williams et le jeune trompettiste Wynton Marsalis. Abordera également avec succès le difficile répertoire de Thelonious Monk, sans pour autant dédaigner les honneurs des charts pop. Fitz, Monster et Rock It le feront même connaître d'un public qui n'éprouvait jusqu'alors que peu d'intérêt pour le jazz. Mais en ces années 80, le pianiste multiplie aussi ses collaborations avec le cinéma. 20 ans après avoir signé la partition du célèbre Blow Up d'Antonioni, il supervise la bande-son de Autour de minuit de Bertrand Tavernier, qui lui vaut un Oscar, puis compose la musique de Colors de Dennis Hopper en 1988. À cette époque, il ressuscite enfin les Headhunters, avec notamment la nouvelle star du sax, Michael Brecker. Enfin, au tout début des années 90, il enregistre le superbe Parallel Realities avec Pat Metheny et Jack DeJohnette et bel hommage enfin à Miles Davis. Il met sur pied avec Wayne Shorter, Ron Carter, Tony Williams et Wallace Roney l'orchestre Tribute to Miles, qui laissait présager un avenir radieux pour la musique de jazz. Mr. Lucky. Guimard Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro, enregistré, réalisé et mis en musique dans ce numéro par Pierre Écart dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel.